Je crois qu'on est à peu près à 20% de femmes dans ces métiers-là aujourd'hui, donc c'est encore très très masculin. Du coup, forcément, ça entraîne des clichés, parce que quand on pense à un développeur, bah, on pense à un développeur, voilà.
Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes, et elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison.
Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas.
Le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme.
Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison.
Elle reste à la maison.
Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant.
Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Van Dalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour.
Bonjour.
Qui allons-nous recevoir aujourd'hui?
Alors, je vous présente Ségolène Alquier, qui est Full Stack Developer chez Doctolib. Bonjour Ségolène, tu travailles dans le secteur numérique. On vient d'écouter un extrait en intro. Que t'évoque cette cliché sur les femmes et la technologie?
Oui, bonjour. Merci tout d'abord de m'avoir invitée. Bah, effectivement, c'est un milieu très masculin. Donc, comme il y a peu de femmes, on associe forcément les développeurs déjà à des hommes. Et on a toute cette image du geek qu'on a tous un petit peu dans l'inconscient collectif qui, en fait, qui existe, mais comme tous les métiers, c'est pas une personne type qui représente tous les développeurs et toutes les développeuses. Et donc, c'est important de comprendre aussi que qui qu'on soit et d'où qu'on vienne, on puisse être, on peut devenir développeur ou développeuse et qu'on peut faire tout aussi bien son travail.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, que tu vois dans ton quotidien ou pas du tout? Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Comment tu vois les choses?
De toute façon, je vois la femme idéale, une femme qui premièrement travaille.
Je pense que ça a beaucoup évolué, même depuis... Moi, ça fait 3 ans du coup que j'ai démarré, parce qu'il y avait encore moins de femmes à ce moment-là. On parlait beaucoup moins aussi des questions de parité et d'inégalité de genre dans la tech. Je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant et porté aussi bien par les communautés que les entreprises. Il y a encore, mais oui, je crois qu'on est à peu près à 20% de femmes dans ces métiers-là aujourd'hui, donc c'est encore très très masculin. Du coup, forcément, ça entraîne des clichés, parce que quand on pense à un développeur, on pense à un développeur, voilà. on pense à un homme. Ouais. On pense à un homme blanc souvent. On a un peu cette image du geek qui est entouré de plein de choses. Et donc voilà, et moi c'est vrai que en arrivant là-dedans, je colle pas du tout. J'ai fait des études différentes, je suis une femme, je suis pas du tout geek, les jeux vidéo ça m'intéresse pas du tout. Donc je fais pas partie de toute cette culture-là un petit peu, qu'on imagine un petit peu comme nécessaire.
Tu es développeuse web chez Doctolib. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier et ton quotidien?
Donc effectivement, moi je suis développeuse web full stack. J'ai rejoint Doctolib en mai dernier. Et mon métier, en fait, le métier de développeur, ça consiste à réaliser l'ensemble de toutes les fonctionnalités techniques d'un site ou d'une application web. C'est-à-dire que je travaille avec des designers et des product managers qui vont travailler avec les utilisateurs de notre produit. Donc nous, ça va être les patients et les médecins. Pour me fournir des maquettes et les fonctionnalités qui sont prévues. Et notre travail, c'est de les créer, de les coder.
D'accord. Et en fait, pour devenir développeuse web, faut-il passer par des formations, des cursus spéciales? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir développeur web?
Ouais. Alors, il y a les parcours plus classiques. Par exemple, on peut passer par des écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles longues aussi qui sont assez récentes. Moi, par exemple, je suis passée par l'école 42. Qui a été créé par Xavier Niel en 2013. Donc il y a une école un peu particulière dans laquelle il n'y a pas de professeurs et pas de cours. On apprend en faisant des projets. Il y a aussi de plus en plus des formations assez courtes, ce qu'on appelle des bootcamps, comme Le Wagon, The Hacking Project, Iron Hack, qui sont à moitié en présentiel ou à distance, de plus en plus à distance surtout, je pense, en ce moment.
Le bootcamp, c'est quoi exactement?
Un bootcamp, c'est formation courte et intensive, en gros. C'est d'accord. Vrai que c'est très à la mode dans la tech, mais c'est pas forcément le...
D'accord.
Et c'est aussi plus possible d'apprendre tout seul chez soi avec Internet, parce qu'il y a énormément de ressources en ligne. Et moi, par exemple, j'ai commencé en faisant un premier bootcamp qui s'appelle The Hacking Project de 2 mois et demi. Donc là, j'étais sur place avec d'autres étudiants. Mais par la suite, je me suis beaucoup formée toute seule avec des ressources en ligne comme Open Classroom ou Codecademy.
Ségolène, tu parles de formation pour les jeunes, les étudiants. C'est des formations qui sont dédiées aux étudiants ou c'est des formations professionnelles que tu fais pour monter en compétences ou de la reconversion ou des choses comme ça?
Il y a les deux, en fait, dans ces formations longues comme courtes. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément non plus devenir développeurs, mais qui ont des métiers proches du numérique et qui ont envie de mieux comprendre comment ça marche. Il y a des personnes qui veulent se tourner plus vers les métiers du produit. Et par exemple, à 42, il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait un parcours Pôle emploi. Donc moi, je suis passée par Pôle emploi. J'ai été accompagnée pendant toute ma formation, mais un an et demi à 42. Donc, j'étais pas étudiante, j'étais stagiaire de la formation professionnelle, mais dans les faits, c'était la même chose. Et je sais qu'il y a aussi un parcours pour les plus de 50 ou 60 ans, je crois, 42, qui est accompagné aussi par Pôle emploi.
D'accord. Et en fait, tu ne viens pas du tout du monde de l'informatique à la base. Hein. Tu as fait des études de droit, de langue, de management.
Ouais.
Comment t'as eu l'idée, en fait, de te lancer dans le développement web? Et surtout, comment ça s'est passé, cette reconversion?
Alors effectivement, si on m'avait dit que je serais développeuse web, il y a même ne serait-ce que trois ans, je ne l'aurais pas cru. Parce qu'effectivement, j'ai fait des études de langue, d'anglais, allemand, de droit, et puis de mon master 2 en école de commerce.
Oui, donc c'est tout autre chose en fait. Hein.
Oui, effectivement. Et en fait, après mon master 2 en école de commerce, j'ai rejoint une start-up, très early stage, donc qui venait de démarrer. Et je me suis retrouvée un peu par la force des choses comme product owner dans cette entreprise. Et donc, le product owner, c'est la personne qui va prévoir en amont tous les développements du site, toute l'application, et qui va surtout superviser les développements.
Il faut préciser que sur ton métier, on est dans les top 3 des métiers qui recrutent le plus. C'est un métier qui est en tension, c'est un métier qui est très recherché. Et c'est pour ça que ce parcours est du coup, entre guillemets, à prendre sur le tas. Et puis ça, c'est pour répondre aussi à un besoin de recrutement en France qui est assez conséquent.
Et oui, et du coup, voilà, à force de travailler au quotidien avec des développeurs, j'ai voulu, moi, comprendre comment ça marchait. Et donc, j'ai quitté mon emploi pour faire le premier bootcamp, donc The Hacking Project, de 2 mois et demi. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et de base, je pensais reprendre un poste plutôt en produit. Et finalement, comme j'ai vraiment aimé ça, et que je me suis rendu compte que c'était des métiers, effectivement, avec vraiment beaucoup de demandes, qui offrent beaucoup de liberté aussi, j'ai voulu continuer là-dedans. Et donc, j'ai continué à me former un petit peu toute seule pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai passé l'examen d'entrée de 42, la piscine. Donc un examen d'un mois, assez, très intense. Et voilà, et j'ai été prise et donc j'ai fait passer un an et demi à 42.
As-tu une idée pourquoi il y a si peu de femmes dans ce métier?
C'est toujours pour lui qu'elle travaille, mais en même temps c'est pour la société tout entière et elle-même.
Déjà, il y a une histoire un petit peu de cercle vicieux. C'est que du coup, c'est un milieu qui est identifié comme très masculin. Donc pour des jeunes filles ou des femmes qui pensent à se reconvertir, il y a déjà la peur de se retrouver dans un milieu où on est en minorité. Il y a aussi moins de modèles à qui s'identifier et je pense qu'aussi dans les orientations professionnelles en tant que femme ou jeune femme on va être beaucoup moins orienté vers ces milieux-là et ce qui est intéressant je pense de souligner c'est qu'en fait c'est le cas aujourd'hui, donc les femmes sont en minorité dans la tech aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas parce que les premiers ordinateurs c'est des femmes qui étaient en charge de ça. Et jusque dans les années, je crois, 70, c'était presque égal dans les études technologiques entre hommes et femmes. Et en fait, ça a décliné avec l'arrivée des personal computers, donc des PC dans les foyers, qui ont été utilisés principalement par les pères et les fils. Et ensuite, l'arrivée du jeu vidéo, qui, pareil, ont créé une culture beaucoup plus masculine et font que ça a un petit peu détourné les femmes des ordinateurs.
Je sais pas, parce que ça me fait penser à ça, je sais pas si tu connais ou si Antoinette connaît un livre qui s'appelle Les oubliés du numérique. C'est un livre d'Isabelle Collet, qui vient d'être récompensé d'ailleurs par le prix du livre Pôle emploi et qui traite justement de ce sujet. Et on apprend aussi dans ce livre que en France, les femmes sont sous-représentées en Occident, de manière générale, mais pas partout dans le monde. Ouais. Et qui tend à dire que c'est en train de changer. Voilà. Ouais. Mais que c'est pas forcément, ce cliché est pas valable partout dans le monde.
Oui, je crois que c'est vrai, par exemple, en Inde et en Afrique du Nord, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce n'est pas le cas, par exemple, pour d'autres raisons. C'est qu'aussi, par exemple, c'est des métiers dans lesquels les femmes peuvent travailler de chez elles Et elles sont par exemple plus en sécurité que pour d'autres métiers.
Exactement, c'est ce qui ressort dans le livre. C'est pas forcément pour des entre guillemets bonnes raisons, mais en tout cas voilà, ce cliché de la femme sous-représentée est très occidental. Et c'est vrai que cette lecture du coup est plutôt intéressante.
Oui, justement, et en France, on a encore du mal à recruter des seniors. Il y a pas mal de juniors, mais pas des seniors dans ce métier, donc c'est très important.
Oui, et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a des recrutements qui se font ailleurs en Europe, et Ségolène peut nous le confirmer, c'est un métier qui s'adresse aux juniors et aux seniors.
Oui, absolument.
Donc en fait, il y a des opportunités pour les femmes dans ce secteur. Il y a juste moins de femmes qui sont dans le développement web. À ton avis, qu'est-ce que les femmes ont y apporté?
Beaucoup de choses, parce que ça a été prouvé par beaucoup d'études que pour créer l'innovation, il faut de la diversité. On le voit par exemple dans plein de produits qui ont été développés essentiellement par des hommes blancs. Par exemple, il y a eu des distributeurs de savon qui marchent que sur les peaux blanches, ou les ceintures de sécurité, à un moment qui fonctionnait en fait essentiellement pour les hommes, et les femmes et les enfants étaient par exemple trop légers ou trop petits, je ne sais plus. Mais on s'est rendu compte que c'est des produits qui ont été créés et designés par un groupe de personnes, et forcément qui ne peuvent pas derrière s'appliquer à l'ensemble de la population. Donc c'est important que dans les personnes qui créent les outils de demain, parce que de plus en plus la technologie est au cœur de tout ce qu'on utilise, c'est important que ça représente tous les utilisateurs et les utilisatrices. Et un autre exemple de ça, c'était effectivement, il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui de reconnaissance faciale, notamment avec l'intelligence artificielle, qui sont créés. Et on se rend compte qu'elles détectent aujourd'hui principalement les personnes blanches et pas les personnes noires.
D'où l'importance d'une diversité dans tous les métiers, qu'elle soit ethnique ou de genre.
Bien sûr,
c'est ça.
Et c'est très, très, très important. Et j'imagine, j'espère que ça tend à changer dans le bon sens.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de recevoir comme ça des femmes dans un milieu qu'on n'attend pas, d'où l'objet de cette série de podcasts.
Et autre chose auquel je pense aussi, c'est qu'il y a un gros enjeu du web pour moi aussi, c'est de créer des sites et des applications qui sont accessibles, donc pour les personnes avec des handicaps, qu'elles soient malvoyantes, non-voyantes, des déficits d'audition. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait et qu'on n'apprend pas forcément énormément aux développeurs, aux développeuses en école. Et ça, je pense que c'est aussi un autre exemple de l'importance d'avoir vraiment des équipes diverses.
Est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui souhaitent se lancer dans le développement web?
D'oser, honnêtement. On peut aujourd'hui commencer, si ça nous intéresse, assez facilement avec Internet. Il y a plein de petites ressources, on peut commencer à faire un petit peu des exercices, des jeux, voir si ça nous plaît, de ne pas hésiter aussi à contacter d'autres personnes qui font des métiers qui nous intéressent. Il y a aussi beaucoup de communautés. Moi, je fais partie, par exemple, de pas mal de meet-up. Donc, meet-up, c'est un site qui s'appelle Meetup, sur lequel on peut créer pas mal de groupes en fonction de nos centres d'intérêt et sur lesquels on va se retrouver de temps en temps. Il y a des événements et aujourd'hui, évidemment, tout va être fait en ligne. Et je dirais d'oser, pas se comparer. Ça, c'est difficile quand on démarre parce qu'on a toujours l'impression de... c'est dur au début, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Donc, il faut accepter de partir de... Un petit peu, c'est comme réapprendre un peu à parler ou ça apprendre une nouvelle langue, donc il faut accepter ça et pas se comparer aux autres parce qu'on ne sait jamais d'où les autres personnes viennent et depuis combien de temps elles le font.
Est-ce qu'on peut dire, pour vulgariser un petit peu tes propos, que quelque part, d'avoir une certaine appétence, ça peut être suffisant? On peut apprendre en autodidacte. Moi, j'imaginais qu'il fallait avoir fait des études supérieures en maths ou en je sais pas quoi. Mais en fait, quelqu'un qui a une appétence pour ses métiers et qui se forme et qui rejoint des groupes, et ça peut marcher?
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ce cliché un peu d'être fort en maths. Et honnêtement, moi, j'utilise pas du tout les maths dans mon métier. Je suis pas du tout une matheuse. On peut l'utiliser, par exemple, plutôt dans les métiers de la data scientist, ou un petit peu qui touche à l'intelligence artificielle, ou des choses vraiment très visuelles, dans les jeux vidéo, par exemple. Mais dans la plupart des métiers du développement, il n'y en a pas du tout besoin. Et je pense que c'est un secteur où les diplômes comptent beaucoup moins que dans beaucoup d'autres secteurs, même en France, parce que c'est assez simple de prouver en fait si on sait faire ou si on sait pas faire. C'est un petit peu comme des c'est un métier créatif en fait, où on peut avoir un portfolio, on est capable de montrer j'ai fait telle ou telle chose. On peut mettre ce qu'on appelle en open source son code, donc que n'importe qui puisse y accéder. Et donc voilà, c'est assez simple en fait, de même pour des recruteurs, de voir si on sait faire, si on sait pas faire, si on est motivé, si on fait des projets, etc.
Donc c'est vraiment ouvert à tous.
Ouais.
Merci Ségolène, as-tu un dernier mot de fin ?
Eh ben, merci déjà de m'avoir invitée. Et puis moi, j'aimerais vraiment dire que cette reconversion que j'ai faite, ça a été vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, et en tout cas dans ces dernières années. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Ça m'offre beaucoup d'opportunités, de perspectives très intéressantes. L'idée aussi d'une certaine forme de liberté qui me permet de créer un petit peu le modèle de vie que j'ai envie d'avoir et que j'avais pas forcément dans mes expériences précédentes.
Merci Ségolène de nous avoir raconté ton parcours. Merci Antoinette de nous avoir présenté Ségolène.
Merci.
Cet épisode des Femmes au cœur de l'emploi dédié au métier du développement web est terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur ce métier. Je compte sur vous pour le relayer à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Femmes au cœur de l'emploi. Merci.